Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du Pédalo ce soir, zoom sur l'édition 2026 du Club de Rabelais. Le festival culture locale et art pluriel revient ce week-end, comme chaque année c'est à Rabelais-sur-Layon. Et pour tout savoir sur le programme, on reçoit Laurent Pinault, membre de l'organisation de l'événement. Et en deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter un reportage. Marion s'est rendue au rassemblement de ce lundi matin à l'appel des collectifs féministes. C'était devant le Palais de Justice à Angers à l'occasion de l'ouverture du débat sur la loi dite intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Mathias pour sa chronique tech. Il parle du bon sens technique. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du lundi 7 septembre. Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Ce week-end, le Club de Rabelais revient pour une 11e édition. Club, c'est pour culture locale et art pluriel. Et ça démarre donc vendredi à 19h à Rabelais-sur-Layon. Pour en parler, je reçois Laurent Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Simon, bonsoir à toutes et à tous.
Membre donc de l'organisation de l'événement, événement dont on va détailler la programmation. Mais avant, peut-être dire un mot sur l'ADN du festival. On est là pour célébrer donc les arts pluriels. Ça va de la musique, tout type de musique, à l'art de rue, le tout en milieu rural. C'est comme ça qu'on pourrait définir grossièrement?
Ah oui, totalement, oui. Des expositions d'artistes via le village d'artistes en plein cœur de la commune, qui existe depuis 40 ans en fait, qui est une exposition, qui est une artothèque, qui est vraiment le cœur culturel de la commune. Donc voilà, oui, le CLAP, effectivement, culture locale et art pluriel, on est complètement dans cette représentation et l'acronyme du CLAP, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi bien des groupes de musique, du théâtre de rue, une très belle troupe qu'on a le samedi et une énorme installation. Donc voilà, et surtout on a de la programmation pour les petits, pour les plus grands et encore pour les plus grands.
On aura l'occasion justement de parler de cette programmation. La dimension locale aussi, elle est importante, elle est dans l'ADN du festival. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette volonté de rester quand même sur ce local?
Parce que je pense que effectivement l'ADN de la ville de Rabelais-sur-Layon, il y a une appétence complète et totale sur l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, la culture et sous toutes ses formes. Donc que ce soit le théâtre, la musique et tutti quanti, quoi.
Oui, c'est un village qui est donc on est au sud d'Angers, hein, c'est assez connu et assez moteur même pour au niveau de la culture dans le département. Comment est-ce qu'on explique cette
Je pense que ça fait partie de son histoire, des gens qui l'ont traversé, qui avaient mis en place, il y a un moment maintenant, le feu grand festival de Rabelais, où il y avait 5000 personnes par jour sur 3 jours. Donc ça représentait un investissement total de la plupart des gens de la commune, et on est sur à peu près 800 personnes. Donc c'est vrai que au prorata du nombre d'habitants à 25 minutes d'Angers, au sud d'Angers, c'est vrai que c'est quand même assez particulier, c'est un particularisme de cette commune, de vouloir vraiment s'ouvrir, se renseigner, s'informer et surtout faire la fête.
Et justement, à quel point est-ce qu'un événement comme le Club de Rabelais participe en plus à ce rayonnement culturel? Quelle est sa place dans la vie riche de la commune?
Ah, c'est un vrai temps fort de l'année de la commune. On a également créé depuis 2-3 ans le petit format du CLAP, qui s'appelle la CLAPette, hein, tout bonnement, donc, qui est au printemps. Donc, là aussi, on mélange concert et théâtre de rue. On a un partenariat depuis quelques années avec le village, la partie culturelle de la Comcom, Loire-Layon-Bance. Donc voilà, donc on fait la fête au printemps, petit festival premier plan, et donc à la rentrée, donc en septembre. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fêté les 10 ans, c'était sur 3 jours. Cette année, on revient sur un format normal sur 2 jours, donc le vendredi 11. Et surtout, le temps fort du festival est le plus gros, c'est le samedi 12 septembre. Voilà.
Oui, justement, j'allais poser la question. Donc, ce retour à deux jours, c'est pas, c'est une volonté simplement de revenir à une norme. Et en fait, c'était plutôt l'année dernière où c'était exceptionnel.
Oui, et exceptionnel en termes de programmation sur ces trois jours, également d'investissement, parce que le Festival du Clap, on compte une quinzaine de membres dans le CA, ce qui est peu, je dirais, par rapport aux festivités printanières sur le petit format et également sur le gros du festival, donc au mois de septembre. Et on a, dans cet ADN de cette commune de Rabelais, on a aussi l'entraide et donc il y a énormément de gens qui s'investissent, quoi, de tous âges, encore une fois.
Ouais, la force bénévole, là, c'est quelque chose, enfin, c'est pas une grosse problématique d'aller en trouver ?
Non, bah, bon, alors après, forcément, on sollicite souvent un peu, enfin, disons que c'est les mêmes personnes qui reviennent, mais c'est vraiment, comment dire, ça fait vraiment partie de l'ADN et de la volonté de, donc, d'aider, et surtout pour faire connaître, pour faire plaisir aux gens, c'est, je pense que la finalité de tout à chacun, l'investissement, il est là, quoi, hein.
Alors on en parle souvent, hein, mais la culture dans les Pays de la Loire, on le sait, c'est compliqué. Est-ce que même pour un village comme Rabelais-sur-Layon, on sent une baisse de la vie culturelle ?
Paradoxalement, je dirais qu'à Rabelais, non, malgré le retrait de la région. Hein, d'ailleurs, on a un petit logo qui.
Oui, comme
la région
de,
Barret, voilà,
comme
parce que.
De festivals.
On a trouvé ça lamentable et scandaleux. Mais sans revenir là-dessus, non, nous, paradoxalement, suite au retrait de la région, on avait créé ce petit format pour. Qui était, en quelque part, une réaction un petit peu épidermique par rapport au retrait de la région. Et donc par rapport à la culture, quoi, en général. Donc non, il n'y a pas eu de retrait. Au contraire, on a créé cette petite formule printanière de la clapette. Voilà.
Et même sur le village au sens large, est-ce que ça impacte la vie culturelle ? Est-ce que les artistes qui sont ont un peu baissé leur activité, ou est-ce qu'au contraire c'est encore un village qui vit beaucoup
Non, qui vit beaucoup, parce que le village d'artistes, qui est une artothèque, exposition régulière avec son amphithéâtre devant l'énorme maison où il y a toujours de la vie culturelle, c'est vraiment le point fort de la commune pour la culture, et avec le CLAP qui est également en fer de lance, quoi. Et on a aussi l'auberge de Rabelais, donc en plein centre du Bourg, fait des expositions d'artistes, qui fait également des concerts, en plus de, effectivement, servir de restaurant, quoi. Donc là, il y a vraiment plusieurs générations qui se retrouvent et qui profitent de ce que font, et j'en passe, je leur fais un petit coucou au gérant, à Louis Amalel, de l'auberge de Rabelais. Donc c'est vraiment aussi un gros temps fort et un gros lieu de la commune, en fait, hein.
Alors pour revenir sur la programmation du festival, donc, qui démarre ce week-end, donc, c'est vendredi à 19h avec tout d'abord Charles Dubois. Donc là on est sur de la musique puisque c'est un percussionniste, mais il y a aussi une forme de performance visuelle, on peut dire.
Oui, tout à fait. Alors là, on démarre les hostilités donc, le vendredi dans le village d'artistes. Hein, donc en plein cœur du bourg. Donc effectivement, il est percussionniste, performeur sonore, il pratique de la percussion acoustique tout terrain. Vu comment c'est vallonné à Rabelais, c'est aussi bien. Avec une collection d'objets sonores. Donc il a un univers aussi visuel. Donc voilà, donc on va découvrir son univers donc qui est assez riche à Charles Dubois.
On continue de détailler la programmation du Clap de Rabelais avec donc Laurent Pinault, mais avant on va faire une pause musicale. On écoute une artiste qui justement est à l'affiche du festival, donc on reste quand même dans la découverte. C'est Nini Poulain avec son titre Apprendre à dire non. À tout de suite dans le Pédalo.
Dévoilé. Il faut que j'apprenne à dire non, que je me mette à votre diapason, que trop en dire devient dangereux, que trop s'offrir invoque des flammes dans les yeux, c'est trop vicieux. Si j'avais su me taire pour ne pas nourrir vos illusions, mais aujourd'hui je m'en fiche, je vous déplore, car j'arrive enfin à dire non. Et laissez-moi être dans ma bulle, là où je suis, le funambule, sur le fil de mes émotions, combat entre cœur et raison à l'horizon. Je suis la seule qui m'accompagne sur le chemin de l'envol de mon âme. Donc quand je te dis que je veux être seule, le prends surtout pas pour ta gueule, ou sinon ta gueule. Si j'avais su me taire pour ne pas nourrir vos illusions, mais aujourd'hui je m'en fiche, je vous déplore, car j'arrive enfin à dire non.
Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. C'était Apprendre à dire non de Nini Poulain, une artiste à l'affiche du Clap de Rabelais ce week-end. On en détaille d'ailleurs la programmation avec mon invité Laurent Pinault. Alors on a commencé déjà à évoquer le premier événement, et ensuite à 21h le vendredi toujours, on retrouve Chameau Solo à l'Auberge du Léon. C'est un genre de mix entre reggae et théâtre de rue avec un univers spatial, donc c'est vraiment très, très vaste. Mais ce qui est original, c'est qu'on est sur une performance qui est interactive.
Oui, tout à fait. Alors, le lieu donc, du concert, c'est devant l'auberge. Hein, donc, il y aura pas mal de monde, comme tous les vendredis, pour ouvrir réellement le festival. Donc, Chameau Solo, c'est à mi-chemin entre le concert de reggae et le théâtre de rue. Et donc, en étant très interactif avec le public. Et donc, ça donne quelque chose de plutôt festif, où les gens vont, généralement, ça se passe plutôt bien sur les concerts de ce monsieur qui a un univers très personnel et très plaisant en fait, et très festif. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ce sera un bon temps fort dès le vendredi soir. Quoi,
une dimension presque impro même avec ce côté.
Ouais, tout à fait. Et puis ça va être un bon moment. On va s'amuser et puis les gens vont adhérer et ça devrait se déhancher.
Alors la journée du samedi 12, elle commence plus tôt à 16h30 avec les contes dits du bout des doigts de la compagnie Bruit du Silence. Un spectacle donc qui est destiné au jeune public avec des contes et des mimes.
Oui, tout à fait. Dans cette volonté d'une programmation, pluridisciplinaire et multiculturelle, multigénérationnelle aussi. Donc sur le site, on se retrouve souvent avec deux, trois générations d'une même famille. Donc on a une programmation spécifique pour les plus petits. Donc ça démarre effectivement samedi après-midi pour le spectacle là, les contes dits du bout des doigts par la compagnie Le Bruit du Silence, ce sont des contes et des mimes. À noter que l'entrée aux plus de 12 ans est de 5€ le samedi, elle est symbolique hein, plus qu'autre chose, mais je voulais quand même le préciser.
Ouais, donc une vraie place qui est faite aux enfants dans le festival. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de vraiment créer cet espace intergénérationnel?
Cette volonté culturelle du CAP, dans sa création à l'origine, était vraiment, on voulait un festival familial. Donc aussi bien les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Donc et c'est vraiment le cas, quoi. C'est assez étonnant d'ailleurs que ce soit le vendredi ou surtout plus le samedi parce que la programmation elle est un peu plus dense. On a exactement ça, quoi, sur le site, quoi. C'est les enfants dansent devant avec des casques anti-bruit ou pas. C'est selon le volume, les décibels. Et puis les grands-parents sont derrière et puis les parents aussi, quoi. C'est quand même super sympa.
Et justement, l'accès à la culture dès le plus jeune âge, c'est une mission que se donnent les festivals comme le Club de Rabelais ?
Oui, parce que c'est pas que pour réunir les familles. Hein. On a aussi un but, c'est que on donne aux enfants l'envie de découvrir la culture via le biais de ces spectacles du CLAP. Quoi. Donc, et puis c'est aussi cette ouverture se fait dès le plus jeune âge. Donc je pense que c'est quand même un joli but.
Alors à 18h30, le public a rendez-vous avec le spectacle Branle-bas de combat de la compagnie Le Nouveau Cirque d'Avant. On est sur du cirque aérien avec un véritable chapiteau à ciel ouvert.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une très belle installation. Donc ça va être un mixte sur du cirque aérien, théâtre de rue. Et ça va être super sympa. Vraiment, ça va être le gros temps fort de cette compagnie. Son spectacle, c'est Branle-bas de combat de la compagnie Le Nouveau Cirque d'Avant. Hein, donc voilà. J'en dis pas plus. Je laisse autant aux gens de venir sur place, découvrir l'installation et puis surtout ce spectacle de théâtre de rue en fait quelque part. Aérien.
À partir de 20h, c'est soirée musique avec tout d'abord un concert, celui donc de Nini Poulain qu'on vient d'écouter. On l'a vu, c'est de la chanson française qui mélange un peu pop, soul, accordéon et puis aussi avec un petit côté punk quand même.
Oui, Nini Poulain a un univers aussi très personnel, un peu comme la veille, que ce soit Charles Dubois ou Chameau Solo. Personnage de caractère, chanteuse accordéoniste, auteur et interprète, au look très punk. Donc, beaucoup d'énergie, mélange de pop, de soul. Donc, on a entendu son extrait tout à l'heure. J'invite à venir découvrir cet artiste iconoclaste.
À 22h, c'est un peu la tête d'affiche, le groupe Acid Guru qui sera sur scène. Un groupe assez survolté qui mélange de l'électro, de la house et du jazz, et le tout avec quand même beaucoup de cuivre.
Oui, c'est vraiment la tête d'affiche, le point fort du festival, samedi samedi à 22h à Sidgourou. C'est donc la thématique, leur genre, c'est, ce sera concert de brass house, électro, donc gros mélange de cuivre, de son techno, house music, de jazz également. Et donc oui, c'est une énergie pure et ça va démarrer tranquillement et ça va monter lentement mais sûrement et ça va finir en dance floor de début de soirée. Donc non, ça va être super à Sidgourou.
Et alors pour terminer la soirée, un DJ set surprise. Bon, j'imagine qu'on peut pas tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut avoir une vague idée de à quoi on peut s'attendre ?
Bah, c'est un petit peu la petite spéciale, la spécialité du festival, c'est DJ, surprise, c'est un groupe, et surtout les DJs. Ah, donc les Crazy DJs au fil des ans, ce sont des habitants ou des habitantes de Rabelais qui viennent faire leur show et c'est toujours après la tête d'affiche du samedi soir. Donc cette énergie qui est propulsée par des 22h d'Acid Guru sera vraiment, elles vont rebondir sur cette énergie et puis généralement ça se finit en gros desfeur géant, hein, plus avec les jeunes et les moins jeunes, jusqu'au bout de la nuit quoi.
Et alors cette programmation elle s'accompagne de quelques à côté, notamment de la restauration, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Oui, tout à fait, donc bar restauration, toujours dans cette mentalité de Rabelais-sur-Layon, très sensible aussi à l'écologie et puis au bio. Donc on a une restauration et bar sur des produits locaux et bio. Voilà.
Ben on invite tout le monde à aller voir ça. Merci beaucoup, Laurent
plaisir.
Pinault, d'avoir été avec nous, donc membre de l'organisation du Club de Rabelais. Peut-être un dernier mot, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, un petit lancement de remerciements donc, à nos partenaires. Bien sûr, Radio Campus Angers. Toujours un vrai plaisir de venir dans vos locaux et puis de continuer notre partenariat culturel. Le Village d'Artistes, l'Auberge du Layon, les communes de Belleville-en-Layon et de Rabelais-sur-Layon, et également le département de Maine-et-Loire. Voilà.
Eh bien, c'est un plaisir aussi pour nous de recevoir
Simon.
Le Club de Rabelais. Donc merci Laurent Pinault, membre de l'organisation du Club de Rabelais, qui se tient vendredi et samedi à Rabelais-sur-Layon. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
N'attendons pas le 8 mars pour une grève féministe. C'était l'appel lancé par plusieurs associations et collectifs féministes et enfantistes de Maine-et-Loire, soutenus par le syndicat Solidaire. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce lundi matin devant le palais de justice d'Angers pour protester contre les violences sexistes et sexuelles, alors qu'une proposition de loi dite intégrale pour lutter contre ces violences est débattue à l'Assemblée nationale depuis ce matin. Elle réclame une réponse à la hauteur de ces enjeux. Un reportage de Marion Bastit.
Sur les marches du palais de justice, Cyril trace des lettres majuscules à la craie.
J'écris Gloria Forever pour Gloria Steinem, en fait, qui est décédée il y a peu de temps. Une personne qui a défendu les droits des femmes toute sa vie. Et de mettre ça sur les marches du palais de justice, c'était pas mal.
Cyril est bénévole au planning familial.
Je viens aujourd'hui parce que la cause me concerne, que je trouve qu'une loi cadre sur les violences sexuelles, c'est hyper important, en fait, nécessaire actuellement, puis depuis longtemps. Enfin, pour moi, ça légitimerait qu'on continue d'en parler. Ça me permettrait aussi d'avoir sans doute plus de moyens pour les associations, pour les organismes en fait, qui œuvrent pour les droits des femmes et contre les violences sexuelles. D'avoir une loi cadre, ça permettrait de dire ben voilà, il y a une loi qui existe, il faut les moyens pour les mettre en place. Et ça permettrait un vrai changement de fond plutôt que des petites lois ou des amendements ou des décrets un peu éparpillés. Avoir une loi cadre, ça favoriserait une dynamique qui prendrait vraiment en charge le problème à bras le corps. En fait.
Car on est loin du compte pour Amélie, salariée au planning familial.
Bah, ce qui manque, c'est des moyens humains, des moyens financiers et puis aussi une prise de conscience collective, une prise de conscience politique, là où les enjeux aujourd'hui semblent être des étendards, mais où derrière ça ne suit pas forcément aux échelles locales et même à l'échelle nationale finalement, et donc d'avoir davantage de moyens déjà. Au titre du planning, de pouvoir aussi être davantage reconnu comme un acteur pouvant agir contre les violences et pouvoir continuer à être interpellé sur ces questions-là, tant en termes de formation qu'en termes de recueil de la parole, d'être visible comme un endroit ressource pour les personnes. Parce qu'on reste une association qui, mine de rien, est toujours assez attaquée, tant dans les coupes de subventions que voilà, dans le message qu'ils portent, notamment à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale.
Depuis 2025, la région Pays de la Loire a en effet coupé toute subvention au planning familial. Léa et Althea, 18 ans, sont venues avec leur pancarte.
Moi j'ai mis « Si t'es pas mort, t'es classé sans suite ». J'ai marqué « Il ne la frappe qu'une seule fois », mais en barrant du coup le « ne » et qu'une fois pour dire qu'en gros il la frappe, quoi. Moi, le féminisme, ça me porte à cœur. C'est une chose, c'est quelque chose pour lequel je me bats et que j'avais envie d'être ici pour montrer que j'étais là et que je voulais que les choses changent. Que les choses soient plus prises au sérieux, que les violences soient plus prises au sérieux, que la justice fasse plus de choses pour les femmes, pour victimes de violences. Ou...
Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des violences. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des violences.
Dans le cortège, on trouve des membres du collectif D'une seule voix pour nos enfants. Depuis la mort de Liana, il y a 3 mois, ses parents se réunissent chaque lundi soir devant le palais de justice d'Angers. C'est le cas de Bessou.
Alors nous, en fait, on vient demander qu'il y ait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'accompagnement, d'écoute des victimes. Parce que justement, le fait de les écouter, de prendre en considération leur souffrance, en fait, on en sauvera beaucoup plus et on libérera de plus en plus la parole.
Maud est venue de Chalonne avec son fils dans son landau et sa pancarte.
Fière d'être une sale conne. Je suis là parce que je suis avant tout maman, je suis aussi femme. Et pour moi, c'est primordial de se faire entendre, de se faire voir pour respecter nos droits. J'ai une fille de 5 ans et j'aimerais juste qu'elle puisse grandir en toute sécurité et que je n'ai pas à l'inquiéter sur la situation. Qu'elle n'ait pas peur de traîner dans la rue et qu'elle n'ait pas peur de rentrer à la maison le soir.
Muriel est venue toute seule et c'était une évidence car elle est révoltée.
Je suis un être humain et ce que j'entends, ces agressions sur ses enfants, mais y compris sur les femmes, ça m'est insupportable, réellement insupportable. Donc je ne peux pas comprendre comment on peut se dire être humain et supporter ça. Donc comme on disait avec les collègues, être ici c'est une petite goutte dans un océan, mais c'est presque une thérapie pour moi parce que rester chez moi sans rien faire c'est encore pire. Donc... On est là juste pour dire qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Moi, je veux vraiment que les dirigeants se rendent compte de la honte que ça représente. Alors déjà, les violences subies par les enfants, les traumatismes irréparables. C'est toute une vie, et voire plusieurs générations qui vont être marquées par ces violences insupportables. Et surtout, des agresseurs, comme je le marque, quoi. 1% des agresseurs qui sont condamnés. Donc, est-ce qu'on peut vivre avec ça en France? Est-ce que ça convient à tout le monde qu'on vive avec ça? Donc, des moyens pour la justice, pour la prévention aussi. Donc, c'est toute une chaîne. C'est pas que la punition, comme on l'a entendu. Ok, punition, très bien, mais ça fait beaucoup de com', mais ça fait pas le travail de fond. Donc, un vrai travail de fond, depuis la prévention jusqu'aux poursuites des agresseurs. On entend encore il y a quelques temps qu'il y a je ne sais pas combien de millions de connexions en France sur des sites de pédophiles. Si nos dirigeants arrivent à se regarder dans la glace en écoutant ça, je ne sais pas comment ils vivent, je ne sais pas comment ils se disent humains en fait. J'arrive pas à comprendre.
Arrivée place du ralliement, les manifestantes ont inscrit des slogans féministes à la craie sur le sol avant de se disperser aux alentours de midi.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère.
Un reportage de Marion Bastide. On est lundi et comme toutes les 2 semaines, on parle technologie avec Mathias. Salut Mathias.
Salut Simon.
Alors tu reviens aujourd'hui avec un constat sur l'évolution de nos objets du quotidien et des systèmes industriels. Après une décennie de course au tout numérique, on redécouvre les vertus du physique et du local. Premier exemple avec les voitures.
Allez, va pour l'automobile. Pendant 10 ans, l'intégration des fonctions sur un écran tactile central a permis d'économiser sur le câblage multiplexé, la découpe des planches de bord et l'intégration de boutons physiques. Sauf que sur le plan de la sécurité routière, le bilan est lourd. La recherche ergonomique montre qu'il faut en moyenne 1,5 à 2 secondes pour interagir avec un sous-menu tactile du menu ventilation, lui-même venant du menu voiture, puis réglage. Paramètres. Ah voilà, température à gauche. Ah voilà, ventilation, désembouage. Ouf, c'est bon, on l'a trouvé. Et côté bouton physique, on relève une demi-seconde seulement pour manipuler le bouton physique grâce à la mémoire haptique et proprioceptive.
Oui, tu veux dire la capacité de notre cerveau à repérer une commande à l'aveugle par le simple toucher.
Voilà, c'est ça. Et à 130 km/h sur l'autoroute, 2 secondes d'inattention représentent plus de 70 mètres parcourus sans regarder la route. Alors oui, ces 2 secondes, ça compte. L'organisme européen EuroNCAP fait évoluer ses critères de notation pour obtenir les 5 étoiles de sécurité au crash test. Un véhicule doit absolument désormais obligatoirement proposer des commandes physiques distinctes pour 5 fonctions critiques. Clignotant, feu de détresse, essuie-glace, klaxon et appel d'urgence SOS. Voilà, on sort de l'illusion du tout tactile.
Fascinant.
Et c'est encore plus frappant avec le réseau OIT pour Operational Technology, qui pilote les vannes d'eau, les turbines, les transformateurs électriques. Pendant longtemps, la tendance a été d'empiler des couches, des pare-feux logiciels, des passerelles de sécurité et des agents d'IA pour détection d'anomalies. Problème, chaque ligne de code peut contenir une vulnérabilité de type 0D, les failles que même les développeurs ne connaissent pas. Pour pallier à cela, l'ingénierie moderne revient à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le air gap physique dynamique.
Le quoi ?
Ouais, des sortes de rupteurs optiques ou électromécaniques. Plutôt que de confier la coupure d'un réseau sensible à un paramètre logiciel, on installe un relais ou un commutateur physique. Quand une anomalie est détectée, aucune maintenance est requise, le circuit est électroniquement coupé. Un attaquant distant peut avoir le meilleur exploit logiciel du monde. Il lui est physiquement impossible de faire franchir un signal électrique, un interrupteur ouvert où les contacts sont séparés par de l'air. Le physique impose une frontière virtuellement infranchissable.
Par contre, dans l'IA, on est encore et toujours dans la course au numérique.
Eh bien oui, mais justement, non. Au niveau de l'architecture de calcul, on observe déjà une transition du to cloud vers le edge AI. L'IA exécute en local si on préfère. Jusqu'ici, faire tourner un grand modèle de langage, genre les LLM comme ChatGPT ou autre, ça nécessitait d'envoyer chaque requête vers le réseau, des fermes de serveurs équipés de puces très gourmandes en énergie avec des latences de transfert et un coût environnemental important, sans parler des risques de fuite de données, etc. etc. Maintenant, les constructeurs intègrent désormais les Natural Processing Units, donc NPU, des puces spécialisé dans le calcul matriciel à très basse consommation. Cela permet de faire tourner les modèles d'IA dites quantifiés et compressés directement sur l'ordinateur, l'automate ou le téléphone, sans utiliser une connexion Internet.
Et c'est quoi réellement l'intérêt ?
Alors déjà, c'est la latence qui passe sous la barre des quelques millisecondes. Le traitement ne consomme que quelques watts au lieu de mobiliser toute l'infrastructure du réseau global et les données ne quittent jamais la mémoire vive de l'appareil. On résout à la fois le problème de confidentialité, cybersécurité, etc. et le bilan énergétique lié au transfert continu de données.
Allez, une petite dernière actu rétro-techno-écologique.
Allez, pour finir, la fin de la charge rapide. Je l'annonce, et oui, pendant 5 ans, c'était la course au watt. Recharger votre smartphone en seulement 10 minutes a été l'argument marketing principal. Mais on se rend compte aujourd'hui que la dégradation prématurée des composants chimiques au lithium, des risques thermiques et du coût écologique du renouvellement accéléré des appareils, le retour en arrière technologique devient une véritable innovation durable pour allonger de 5 ans la durée de vie des appareils avec des charges lentes et intelligentes.
Enfin, un vrai retour au bon sens technique au service de la sécurité et de l'écologie. Merci Mathias pour cette actu tech. On te retrouve dans un petit mois pour un nouveau décryptage. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias qui était également à la technique. La programmation continue sur le 103FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.